Cinéma Cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, l'image de Cyrano de Bergerac au cinéma. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Cyrano de Bergerac, donc il y a une pièce d'abord, il y a quelques films qui vont l'adapter. Donc cette pièce Cyrano, on peut dire qu'elle exalte en quelque sorte l'esprit français dans ce qu'il a de finesse, de culture, d'ironie, de panache. Panache, c'est le dernier mot de l'œuvre à la fin de l'acte 5. Donc, une pièce qui a toujours été appréciée, qui est rejouée régulièrement, il y a toujours un Cyrano quelque part. Et on peut dire qu'il y a une minorité de personnes qui trouvent la pièce un peu emphatique, lyrique, boursouflée, mais la plupart des spectateurs y trouvent un grand plaisir. Donc, Cyrano Bergerac, pièce de théâtre. Alors, elle a été représentée en décembre 1897. Donc, le Cyrano au théâtre va exploser immédiatement. Il faut rappeler qu'il y a eu dans l'histoire un authentique Cyrano qui a vécu au XVIIe siècle. Ce Cyrano-là a participé au combat des armées françaises en tant que cadet, c'est-à-dire un jeune homme volontaire voulant apprendre le métier des armes. On peut dire que c'est un petit peu parallèle au corps des mousquetaires. Donc ce Cyrano-là a écrit quelques ouvrages, une tragédie qui s'appelle « La mort d'Agrippine » que je ne connais pas. Par contre, il a écrit ce qu'on appellerait aujourd'hui un ouvrage de science-fiction sur les états de la Lune et du Soleil. Et j'ai la chance d'avoir dans ma bibliothèque « Voyage dans la Lune » et je prends un extrait juste du « Retour sur Terre ». Vous allez voir comment c'est à peu près conçu. Donc, extrait. « Il s'enleva comme un tourbillon. Il me fit passer tout ce grand espace que nos astronomes mettent entre nous et la Lune en un jour et demi. Au commencement de la seconde journée, je m'aperçus que j'approchais de notre monde. » Déjà, je distinguais l'Europe avec l'Afrique et ces deux avec l'Asie. Alors, dans la pièce, on trouve à l'acte 3 un moment où, justement, Cyrano évoque le voyage dans la Lune. Pour s'arrêter immédiatement sur la scène la plus célèbre, Cyrano, c'est la tirade des nez, puisqu'il a un nez quelque peu proéminent. Et il va être attaqué là-dessus. Il va faire toute une liste de ce qu'on pourrait dire sur son nez. Donc nous avons ici Depardieu dans le film de Rappeneau qui nous joue la tirade des nez.
Attaquer Montfleury, mais c'est fou, quel scandale! Lui qui est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron?
Non.
Un protecteur?
Non.
Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom?
Non, et je dis deux fois, faut-il donc que je triste? Non, pas le protecteur, mais une protectrice. Bon, tournez les talons maintenant.
Mais...
Tournez ! Vous dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez ?
Moi ?
Qu'a-t-il d'étonnant ?
Votre grâce se trompe.
Est-il mollet ballant, monsieur, comme une trompe ?
Mais tu portais les yeux, j'avais su me garder.
Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder ?
J'avais !
Il vous dégoûte, alors ?
Monsieur !
Malsaine vous semble sa couleur ?
Monsieur !
Sa forme obscène ?
Pas du tout !
Pourquoi donc prendre un air dénigrant ? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand ?
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein ? Comment ? M'accuser d'un pareil ridicule, petit, mon nez. Oh là !
Ciel !
Énorme, mon nez ! Ville Camus, saut camard, tête plate ! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable marot. Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos.
Au secours, à la garde !
Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir.
Mais à la fin, il nous ennuie.
Fanfaronne.
Personne ne va donc lui répondre.
Personne ? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. vous, vous avez un nez. Un nez. Très grand.
Très.
Ah.
C'est tout?
Oui.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap? Descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédon, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe, et les fantômes camélos, dit avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire! Pointé contre cavalerie! Pratique! Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin! Parodiant Pyrame en un sanglot! Le voilà dans ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître! Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit? Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de l'être ?
C'est Edmond Rostand qui a écrit cette pièce. Il avait une trentaine d'années. Alors, il a écrit d'autres pièces, en particulier L'Aiglon, dans lequel jouait Sarah Bernard, et Chanteclair, qui n'ont pas eu le même succès, même si L'Aiglon a quand même été apprécié à l'époque. Donc, Rostand, c'est Cyrano. On peut dire qu'il y a deux grands dramaturges au monde, c'est Shakespeare en Angleterre, et Molière en France. Donc toutes les pièces de Molière ont leur intérêt et sont particulièrement intéressantes. Et il y a donc cette pièce qui vraiment est un chef-d'œuvre en soi, donc Cyrano. Alors pour vous rappeler un petit peu l'intrigue de Cyrano, je vous résume la pièce. Donc il y a 5 actes. L'acte premier, déjà, c'est une originalité extrêmement forte, puisque ce premier acte se passe dans une salle de théâtre. On a donc une installation sur la scène d'une estrade, et en face, on a des spectateurs. Donc, cette situation est véritablement originale. C'est lui, en quelque sorte, qui a pu l'inventer pour le théâtre français. Donc, le public attend une pièce, il discute, et un acteur intervient avec beaucoup d'emphase, et Cyrano va le couper en disant « Voilà, je ne veux pas que tu joues pour diverses raisons ». En réalité, parce qu'il a été un petit peu insistant sur Roxane, qui est la cousine de Cyrano et dont il est amoureux. C'est la base de la pièce. C'est là qu'il y a ce morceau de bravoure, donc on vient d'écouter la tirade d'aîné, bon, qui est vraiment, je dirais, exceptionnelle, dans ce cas-là, d'ironique en particulier. Donc, tirade qui est un sommet de la pièce. Acte 2, ça se passe dans une pâtisserie, c'est Roxane, dont est amoureux Cyrano, qui vient le voir pour lui demander de protéger un nouveau cadet qui va entrer dans son régiment, qui s'appelle Christian. Et dans la deuxième partie, on voit Christian qui provoque Cyrano, et celui-ci qui se retient de ne pas le sanctionner avec un duel. Ils sont amoureux, donc Christian et Roxane, Christian et Roxane, dans l'acte 3, c'est leur mariage. Et il y a un personnage important dans la pièce, c'est le comte de Guiche, qui était aussi amoureux de Roxane et qui voulait empêcher le mariage. Et c'est dans cet acte qu'il y a un subterfuge de Cyrano qui fait semblant d'être tombé de la lune pour retarder le comte de Guiche. Il a plusieurs possibilités qu'il explique pour monter dans la lune et ensuite retomber. Acte 4, c'est le siège d'Arras, donc la troupe des cadets est prête à combattre, et Cyrano va écrire des lettres pour se déclarer à Roxane au nom de Christian. Et Christian va mourir, donc Cyrano conserve son secret et ne dit rien. Et l'acte 5, en fait, qui se situe quelques années plus tard, on a Cyrano qui vient voir régulièrement Roxane, qui s'est retirée dans un couvent. Et Roxane va se rendre compte, quand elle lit une lettre, que Cyrano la connaît. Et que donc, en réalité, c'était lui qui prenait le rôle de Christian au cours de ses amours qu'elle pensait mener avec ce jeune cadet. Mais qu'en réalité, il se trouvait que c'était Cyrano qui écrivait ses lettres et qui était amoureux. Alors dans l'acte premier, j'y reviens parce qu'il y a un passage important qui suit la tirade. C'est une insulte par un noble envoyé par le comte de Guiche. Et puis, après ces insultes, c'est le duel. Et le duel, là aussi, comprend une scène tout à fait belle, avec donc ces vers, puisque la pièce est en vers, qui sont toujours excellents. Donc, à la fin de l'envoi, l'insulte plus le duel.
Hors de pied plat ridicule.
Ah, et moi, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac.
Fond.
Aïe.
Qu'est-ce encore qu'il dit?
Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe.
Qu'avez-vous?
J'ai des fourmis dans mon épée.
Soit.
Elle aime ce bruit presque passionnément.
Poète?
Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade.
Une ballade?
Et vous touchez, monsieur, au dernier vers.
Non.
Non? Ballade du duel. Quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bel hydre.
Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît?
C'est le titre.
Non, c'est ce coup.
Écoutez, pas de bruit.
Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc sous votre main eutre, au cœur sous votre bleu cordon. Les coquilles teintent. Dindon. Ma pointe voltige une mouche, décidément, c'est au pedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en neutre. On paye plus blanc qu'un bidon, c'est pour me fournir le mot bleutre. Je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, à la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon, je carte du pied. J'escarmouche, je coupe, je frappe.
À la fin de l'envoi, je touche.
L'importance de la pièce se mesure notamment au fait qu'elle va entrer au répertoire de la Comédie-Française en 1938. Donc c'est une reconnaissance importante quand la Comédie-Française place cette pièce à son répertoire. Alors pour revenir sur la première représentation donc, qui va être mise en place en 1897, l'acteur qui joue le rôle de Cyrano, c'est Coquelin. Alors Coquelin va s'emballer littéralement pour le projet de Rostand. C'est un acteur connu à l'époque, il va donc apporter sa renommée à la pièce. Mais on peut dire aujourd'hui aussi que la pièce va lui apporter une renommée. Donc c'est une sorte d'échange entre les deux. Et Coquelin sera tellement intégré ou marqué par cette pièce qu'il se fera enterrer dans son costume de scène, donc ce qui est quand même assez original. Alors les acteurs de théâtre, d'abord, ont voulu jouer Cyrano. Chacun, à son tour, essaie de laisser en quelque sorte sa patte à son rôle. Au théâtre, vous avez eu Jean Marais, Gérard Philippe qui était connu, Jean-Paul Belmondo lui-même qui a joué ça à la fin de sa carrière. Et plus récemment, à la Comédie-Française, nous avons Michel Villermoz et Laurent Lafitte. Laurent Lafitte d'ailleurs qui sortit ensuite de la Comédie-Française. Et donc cette distribution ou ces représentations sont là aussi originales. C'est toujours cette volonté de se confronter à cette pièce particulièrement originale et importante. Alors il y a eu une création de Cyrano au cinéma, mais il y a eu aussi une création à la télévision qui est assez importante. C'est-à-dire que Daniel Sorano a joué en 1960 une version réalisée par Claude Barma. Alors je ne voulais pas tellement parler à la télévision, mais j'isole ce film-là, parce que l'acteur qui le joue, ce téléfilm, donc, c'est Daniel Sorano, et il a donné son nom à un théâtre à Toulouse. Donc cette version célèbre, avec Daniel Sorano, a marqué l'époque, et on va donc écouter ici la tirade des cadets de Gascogne, c'est-à-dire ça se place à l'acte 4, où on est au siège d'Arras, où la troupe des cadets est prête à combattre, et donc on va demander de présenter la tirade des cadets, la chanson des cadets, et qui est suivie ensuite par la tirade qu'on peut appeler des non-merci, c'est-à-dire que Depardieu, face à des propositions qu'on lui fait, notamment de Richelieu, qui va modifier quand même certains vers, Depardieu dit « non merci, moi je veux être honnête, je veux être moi, et je ne veux pas être modifié dans ma personnalité ou dans mes écrits ». Donc c'est toujours cette espèce de, à la fois on peut dire un panache, mais aussi une prétention si on est critique, de Cyrano qui veut se faire une célébrité à travers lui-même et sans aucun protecteur. Donc les cadets de Gascogne et le « non merci » par Daniel Sorano.
Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, bretteurs et menteurs sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne, parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne. Œil d'aigle, jambes de cigogne, ils vont coiffé d'un vieux vigogne dont la plume cache les trous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne. Perce-bedaine et casse-trogne, dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Ô femme, adorable carogne, voici les cadets de Gascogne, que le vieil époux se renfrogne. Sonnez, clairon, chantez, coucou, voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Messieurs,
dans quel joli drap.
Oh, toi, tu vas grogner.
Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré.
Eh bien oui, j'exagère.
Ah.
Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi.
Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire...
Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant. Prendre un patron. T'es comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers? Se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud? Avoir un ventre usé par la marche? Une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale. Exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci.
Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs, se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. » Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul.
Fais tout haut, l'orgueilleuse et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas.
Tais-toi.
Après le théâtre, Cyrano a été adapté, je dirais, dans tous les domaines. Donc opéra, ballet, BD, bon alors je n'en parlerai pas, et donc télévision et cinéma. Pour la télévision, donc je retenais comme particulièrement originale cette version avec Daniel Sorano. Alors pour le cinéma, on va remonter assez loin, puisqu'on a déjà une adaptation par le réalisateur Clément Maurice en 1901. Alors ça dure 2 minutes, ce qui est une longueur normale à l'époque, hein, puisque fin 19e, début 20e, les films durent 1 minute, 2 minutes. Il faut attendre les années 10 pour que les films durent à peu près 20 minutes. Hein, quand vous avez vu, par exemple, les films de Charlot qui duraient une vingtaine de minutes, ce n'est pas un court-métrage, c'est la durée normale du film à l'époque. Donc, de tournage à l'époque du muet, ce qui est un petit peu bizarre, avec un film en 1909, un film en 1925. Donc, difficile de considérer que ce sont des adaptations assez développées. Alors, on arrive à une adaptation qui est cette fois-ci parlante. C'est Claude Dauphin qui joue Cyrano, acteur qui a connu aussi à l'époque son heure de gloire. On va trouver ici dans les différents Cyrano, dans les différents acteurs, des personnalités qui ont eu une heure de gloire au théâtre ou au cinéma pendant une dizaine d'années, puis qui ont été des seconds rôles. Donc, c'est une version réalisée par Fernand Rivers en 1945, donc Claude Dauphin. Alors, il y aurait eu apparemment, mais je n'en ai visionné aucune, des versions tournées dans les pays de l'Est par des Russes. Et franchement, là, j'essaie toujours de vous parler de films que j'ai pu voir. Là, je n'ai absolument pas connaissance de ces films directement. Donc, bon, je n'en parle pas. Alors, qui a été le seul véritable acteur français à avoir tourné Cyrano de manière vraiment réussie sur une cinquantaine d'années? Bien sûr, c'est Depardieu. Depardieu a tourné un film de Rappeneau. Alors, il faut rappeler qui était Rappeneau. Il a tourné 8 films sur une cinquantaine d'années. Il était extrêmement perfectionniste, donc il préparait ses films pendant des années. Et il tournait avec beaucoup d'attention. Comme film célèbre, il y a eu Les Mariés de l'an 2, Le Sauvage, Le Hussard sur le toit. Les Mariés de l'an 2, c'était avec Belmondo et Marlène Jobert. Le Sauvage avec Catherine Deneuve et Yves Montand. Et donc le réalisateur a tourné donc ces 8 films avec beaucoup beaucoup d'attention et de qualité. Et l'originalité ici, c'est que Rappeneau a fait un travail extraordinaire sur la correspondance entre le rythme des vers et les images. Donc la qualité du film, c'est sa rapidité et on pourrait dire son efficacité, si on peut utiliser ce terme. C'est-à-dire sa pertinence dans la manière dont tout cela est présenté, dont la pièce est présentée. Et il faut bien dire que cette adaptation a donné une aura à Depardieu, qui était déjà célèbre à ce moment-là, et qui l'est resté par la suite, même s'il a eu certains passages à vide et quelques difficultés ces derniers temps. Moi, je n'insisterai pas sur ce point. Donc, acteur français qui le joue, et aussi acteurs étrangers. Alors avant de passer aux acteurs étrangers, j'ai retenu une version aussi théâtrale, parce qu'elles sont vraiment remarquables, et c'est Michel Vuillermoz qui a joué Cyrano Bergerac dans les années récentes. Et ici, je prends l'extrait de la scène du balcon. Cette scène du balcon est en fait tournée de la manière suivante. On a Christian qui se présente sous le balcon et qui veut faire une sorte de tirade d'amour à Roxane, mais il n'en est pas capable. Et c'est Cyrano qui va lui souffler son texte, entre guillemets, et ensuite même qui va prendre sa place. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de cette scène où Cyrano va dicter la tirade de Christian, et ensuite donc il va l'écarter, il va se mettre lui-même sous le balcon, et à ce moment-là présenter des vers qui sont, je dirais, plus convaincants pour Roxane, qui est touchée, mais elle ne sait pas qu'elle est touchée par Cyrano et non pas par Christian. Voilà pour la mise en place de la scène. Donc c'est un extrait de la scène du balcon.
Appelle-la. Roxane! Attends, quelques cailloux.
Qui donc m'appelle?
Moi.
Qui moi?
Christian.
C'est vous?
Je voudrais... Vous parlez bien, bien, presque à voix basse.
Non, vous parlez trop mal, allez-vous-en.
De grâce!
Non! Vous ne m'aimez plus?
M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus. De n'aimer plus. Quand j'aime, plus. Plus.
Tiens, mais c'est mieux!
L'amour grandit, bercé, dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prie pour
Barcelonnette. Barcelonnette.
Barcelonnette.
C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau.
Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule.
C'est mieux.
De sorte qu'il strangula, comme rien, les deux serpents. Orgueil et doute.
On sait très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative?
Cela devient trop difficile.
Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi?
C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille.
Les miens n'éprouvent pas des difficultés pareilles.
Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite, d'ailleurs vos mots à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps.
Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants.
De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude.
Je vous parle en effet d'une vraie altitude.
Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur.
Je descends.
Non.
Grimpez jusqu'ici, alors vite.
Non.
Comment? Non.
Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir.
Sans se voir?
Mais oui. C'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre. Et vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si, quelquefois,
je fus éloquent.
Vous le fûtes.
Mon langage, jamais, jusqu'ici, n'est sorti de mon vrai cœur.
Pourquoi ?
Parce que, jusqu'ici, je parlais à travers...
Quoi ?
Le vertige où tremble quiconque et s'ouvre aux yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois.
Donc cette pièce et ces films montrent l'importance de Cyrano au cinéma. Alors il faut mettre à part une représentation française qui est un film qui a été tourné, qui est présenté en 2019 de Alexis Michalik, qui est un film où on examine la jeunesse de la pièce. C'est-à-dire que Sarah Bernard, à l'époque, va conseiller à Coquelin Rostand. Celui-ci va lui demander cette pièce, mais Rostand a du mal à l'écrire. Et il a parfois tendance à dire qu'il l'a écrite alors qu'il ne l'a pas écrite sur tel ou tel morceau. Donc, il est poussé par Coquelin, joué ici par Olivier Gourmet, pour arriver à la fin de la rédaction de la pièce. Donc, film original sur la genèse de la pièce. Alors, pour les films étrangers, on a le plus classique, je dirais le plus traditionnel, c'est un film 1950 de Michael Gordon avec José Ferrer. José Ferrer, là encore, acteur très connu à l'époque, qui a joué en particulier à Toulouse-Lautrec pour reprendre ses rôles de personnalité française. Donc une adaptation qui reste correcte, sans être absolument excellente, à l'inverse des Trois Mousquetaires, où la version de Gene Kelly est la plus importante qui ait été tournée, la plus intéressante. Ensuite, en 1987, un film de Fred Gepizzi, où Steve Martin, là encore vedette comique à l'époque très connue, pendant, je dirais, une vingtaine d'années, il s'agit d'une adaptation moderne de Cyrano. Donc Cyrano devient Steve Martin, Charlie Bates, Christian devient Chris, et Roxane, c'est Daryl Hannah. Daryl Hannah qui a connu sa célébrité à Splash, qui a joué aussi dans Kill Bill. Donc, des rôles bon, avec une carrière qui est quand même limitée. Et donc, adaptation moderne. Et dernier film américain, alors là, qui est fidèle à la pièce, mais vous allez voir l'originalité. Là encore, réalisateur qui n'est pas très connu, s'appelle Joe Wright. Pièce, donc, film en 2022. Et Cyrano est joué, alors là, c'est l'originalité, il n'a pas un nez, mais c'est un nain. Et celui qui joue a été rendu célèbre par Game of Thrones. C'est le rôle de Tyrion Lannister qui l'a rendu célèbre. Donc, l'originalité, c'est que ça, quand on voit débarquer non pas Cyrano avec son nez, mais cette petite taille. Et donc, il va interpréter la pièce, bien sûr, dans le même mécanisme, mais avec cette différence quant à l'originalité qui est marquée. Alors, l'acteur qui joue Christian, c'est Kelvin Harrison Jr. qui est noir. Et le film est enlevé parce qu'il a, alors là, c'est une originalité forte, c'est une comédie musicale. Alors, en réalité, cette pièce a été jouée au théâtre avant d'être présentée au cinéma. Donc Cyrano, 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 hein, que dire pour terminer ? Que Cyrano est immortel. Cyrano, c'est un chef-d'œuvre dont les représentations au théâtre, dont les adaptations au cinéma ne sont pas prêtes de s'arrêter. On aura toujours au fil du temps des acteurs qui voudront se frotter à Cyrano et essayer de donner une image originale du personnage. Donc voilà pour ce magnifique personnage Cyrano de Bergerac. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Grégor. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes. Thank you.